Bonsoir à tous. Donc, cette délibération a pour objet la modification du périmètre du SDESM par l'adhésion de plusieurs communes du nord de Seine-et-Marne que je vais vous énumérer par la suite. Le SDESM, syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, ou par ses communes adhérentes, ont un besoin commun de réaliser des prestations de maintenance et d'exploitation d'équipements d'éclairage extérieur et public. Le SDESM a informé ses membres par courrier en date du 12 juillet de l'adhésion des communes suivantes. La commune de Damar, Clessouilly, Annette-sur-Marne, Charmentrey, Compans, Gèvres-le-Chapitre, Grécy, Iverny, Mauregard, Leménil-Amelot, Mongé-en-Gouël, Moussy-le-Neuf, Grécy-sur-Marne, Ville-Vaudet et Vinante, modifiant ainsi le périmètre d'action du SDESM. Comme pour toutes les modifications de statut d'un syndicat ou d'une collectivité territoriale, chaque membre dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification des nouveaux statuts par le SDESM, soit pour Nangy le 12 octobre 2021, pour émettre son avis. Ainsi, il vous est proposé de voter la modification de périmètre du SDESM pour l'adhésion des communes précédemment citées.
Merci, monsieur Hamelin. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant concerne donc la candidature de la commune de Nangy au FAC, dispositif politique contractuel du département de Seine-et-Marne. Donc, ce contrat représente une enveloppe financière forfaitaire de 600 000 euros pour les 3 années du contrat. Donc cette somme sera donc répartie sur le plan de financement des 3 actions du programme PVD de Nangy. Les conventions de réalisation seront conclues entre le département et la commune pour les 3 projets qui seront retenus dans le contrat. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Lagoutte.
Merci. J'avais 2 questions. Donc, on n'a pas le document sur le dispositif contractuel du FAC, donc on ne sait pas trop les tenants et les aboutissants, donc déjà on peut le regretter là sur la notice. Et donc, il est indiqué que vous allez formaliser un courrier avec les 3 actions du projet de territoire de Nangy. Donc, je sais qu'il y avait plusieurs pistes d'action. Plusieurs projets, quelles sont celles que vous allez formuler pour la candidature au fonds d'aménagement ? Parce que du coup, on n'a pas les 3 actions.
C'est en discussion avec l'État et le département entre eux, ce qu'on passera dans les différents dispositifs. Donc, on attend le diagnostic de territoire qui est en cours par les services du département avec la communauté de communes.
D'accord, on ne sait pas sur quoi on va. C'est compliqué de se prononcer si on ne sait pas.
Non, mais là, c'est juste
sur quelles actions
la candidature, ça n'est pas la signature du contrat.
Oui, mais vous parlez d'un courrier qui va être formalisé pour pouvoir bénéficier du FAC.
Oui.
Oui.
Donc, oui, je vous dis ça repasse quand vous aurez les informations en temps réel.
Et du coup, je vais aussi vous poser une petite question. Vous avez sollicité pour pouvoir faire partie de l'instance de réflexion générale politique ville de demain. Et on n'a toujours pas de nouvelles quant à notre demande. Qu'est-ce que vous avez, parce que vous vous souvenez, dans la convention, il était indiqué que les élus participaient à l'instance de concertation. Il y avait une instance de concertation et de réflexion plus ouverte avec d'autres partenaires. Et on avait demandé à y participer au moins d'une personne.
En fait, les instances de réflexion, c'est avec les partenaires financeurs. Alors, à moins que vous ayez une bonne nouvelle, que vous ayez un fonds particulier que vous vouliez financer avec un fonds privé.
Non, je ne parle pas de ça. Je vous parle de notre participation à la réflexion de cette convention. Donc, est-ce que vous avez apporté de réponse si oui ou non, on allait y participer, parce que dans la convention, c'était marqué élu. Mais du coup, comme. Voilà, je voulais savoir si on allait en faire partie en tant que.
La gouvernance, il y a des comités techniques où il n'y a pas d'élus, il n'y a que des techniciens de l'État, de la commune de Nangy, de la communauté de communes. Il y a les comités de pilotage avec les élus de Nangy.
Voilà. C'est celui-là dont je parle.
D'accord. Bah écoutez.
Non. D'accord. Non. Bon, donc du coup, on ne va pas participer au vote, puisque ça. Je ne vois pas pourquoi on participerait au vote si on n'est pas concerné par le dispositif. Au moindre effet.
Bah si, la ville est concernée. Mais c'est du majoritaire. Bah, si c'est pour perdre du temps comme on l'a fait là, on ne va pas faire des comités de pilotage qui durent la journée complète. Hein. On sait d'avance que vous ne serez pas d'accord. Vous voulez agrandir Intermarché, on veut développer le centre-ville. Donc on sait qu'on n'est pas d'accord. Comment vous voulez qu'on ait envie de travailler avec vous sur le programme Petite Ville de demain, alors qu'à la base, on n'est pas d'accord. Donc on sait d'avance.
Sur la Grande Plaine, l'opposition était dans les instances de concertation.
Eh bien, c'est très bien, je vous en félicite, Madame Lagoutte.
Vous avez pu modifier. D'ailleurs, M. Gavarro est dans la salle, il pourra en témoigner, il était présent.
Vous me donnez l'occasion d'y répondre. Nous n'avons jamais eu de dossier entre les mains pour pouvoir juger.
Nous non plus, figurez-vous. Je n'ai jamais eu le dossier, je l'ai découvert quand ils l'ont soumis à la CDAC, justement. Et quand la CDAC s'est rendue compte qu'il n'avait pas été déposé en mairie, qu'il n'y avait pas eu de discussion avant, c'est bien pour ça que nous avons eu l'échange avec Intermarché et qu'Intermarché a préféré retirer son dossier. Donc je ne vois pas comment j'aurais pu vous associer. Mais là, vous nous avez dit, vous avez bien expliqué que nous étions contre le développement du commerce, contre l'attractivité, nous refusions tout.
De ce type d'activité commerciale, c'est clair. Voilà, nous n'avons pas statué sur ce projet concernant Intermarché, nous n'en avons pas les éléments. D'accord ? J'ai bien vu passer le rapport de la DDT, comme ça, parce que j'ai encore quelques personnes dans ce département qui me donnent des informations, avec défaut d'en avoir dans le conseil municipal. Mais nous n'avons pas eu à statuer, nous n'avons pas forcément beaucoup de détails à ce sujet. J'ai simplement noté que vous étiez opposé lors de cette réunion de la CDAC. Point.
D'accord. J'ai fait remarquer, en introduction de cette réunion, qu'il était quand même regrettable qu'Intermarché n'ait jamais pris la peine de nous solliciter en mairie pour présenter leur projet. Ça leur aurait évité, par exemple, de débuter tout leur argumentaire en nous expliquant qu'il y avait un besoin pour les 600 logements de la Grande Plaine. Donc effectivement, les services de l'État se sont bien aperçus qu'il y avait un petit souci et qu'Intermarché n'avait pas été très respectueux de l'autorité territoriale, puisque la logique veut que d'abord on présente le projet aux élus, que d'abord on recueille leur avis favorable, et ensuite on le soumet à la commission départementale. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est bien pour ça que les services de l'État étaient inquiets, puisqu'ils étaient, eux, opposés au projet tel qu'il était présenté, puisque pour eux, il était complètement en contradiction avec les objectifs du label Petite Ville de demain. Et vous nous avez expliqué qu'on était contre le développement des commerces, Comment voulez-vous qu'on ait envie de travailler après avec vous sur PVD ? C'est pas possible, on sait qu'on ne sera pas d'accord, monsieur Billon. Vous considérez que l'agrandissement de l'Intermarché, c'est une chance pour le centre-ville ?
L'opposition, ça dérange, donc il vaut mieux, effectivement, la mettre à côté de tout. C'est pas mal, c'est une conception de la démocratie.
Des leçons de démocratie, j'adore. J'ai l'impression d'entendre Georges Marchais. Comme dans le courrier, on est antidémocratique. Oui,
vous en faites la démonstration à tous les conseils.
Mais bien sûr.
À chaque fois que vous avez la possibilité, effectivement, de donner une place à l'opposition, vous la lui refusez.
Regardez, vous avez entendu la parole, monsieur. Alors, qui s'oppose à la candidature au FAC ? Vous ne prenez pas part au vote. Très bien. 600 000 euros, c'est dommage quand même. Qui s'abstient ?
Ça dépend pourquoi faire.
Je vous remercie. Le point suivant concerne donc l'adhésion de la commune de Nangy au service commun d'ADS de la communauté de communes de la Brie Nangicienne. Alors là, c'est pareil. Il y a du... Pardon. Alors, c'est un dossier assez complexe. Puisqu'on a retrouvé une délibération du conseil municipal de mars 2019, du conseil municipal de Nangy. Une délibération du mois de mars. Qui validait une convention, elle-même datée de de décembre 2018, signé par vous-même, M. Biou, et par le président de la communauté de communes de l'époque, M. Lecomte, une convention qui s'intitule « Convention de prestation de services entre la communauté de communes de la Brie-Nangicienne et la communauté de communes et la commune de Nangis, pardon, instruction des autorisations du droit des sols ». Et au bas de la première page, il est bien noté, considérant qu'il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle la commune de Nangis entend confier l'instruction ADS au service ADS commun de la Brie-Nangicienne. Donc c'est bien écrit noir sur blanc. Pour autant, dans les faits, le service d'instruction du droit des sols n'était pas confié à la communauté de communes, mais il était toujours assuré par des agents ville de Nangis, en contradiction donc avec la convention votée par les partenaires et soumise à délibération du conseil municipal en mars 2019. Nous avons donc demandé à la communauté de communes simplement l'application de la dite convention. Vous le savez, il y a eu de vifs débats, puisque la communauté de communes s'en tient uniquement au titre de la convention, convention de prestation de services, et refuse de lire la phrase qui dit « La commune de Nangis entend confier l'instruction ADS au service ADS commun de la Brie-Nangicienne ». Donc, pour sortir de cette situation où, là encore pour l'explication au public, toutes les communes de la Brie-Nangicienne font prendre en charge par la communauté de communes l'instruction des permis de construire, en gros, sauf la ville de Nangis. Pourtant, ce service est payé par l'ensemble de la communauté de communes. La ville de Nangis, c'est à peu près 40% du budget, 35%. Bon. Donc Nangis payait deux fois. Nangis payait pour l'instruction des dossiers des autres communes, et Nangis payait avec ses propres agents pour l'instruction de ses dossiers. C'est pour cela que nous avions demandé donc, l'application de la dite convention. Et donc, pour sortir de cette situation inextricable, donc, nos techniciens ont travaillé ensemble. Le travail a été fructueux et nous proposons donc à notre conseil municipal une nouvelle adhésion de la commune de Nangis au service commun d'instruction des demandes de droit des sols. Est-ce que j'ai été claire? Oui, vous avez une question, monsieur Pillot.
C'est pas une question, c'est une réflexion d'ensemble. Je rappelle peut-être pour le public que ce service a été créé pour répondre à une décharge de compétences de l'État qui auparavant organisait donc l'examen des documents de droit des sols, donc c'est-à-dire déclaration préalable de travaux, permis de construire, pour le compte des petites communes qui n'avaient pas de service, qui n'avaient pas les moyens techniques de remplir cette mission. Puis, on est passé par là, et donc l'État s'est totalement désengagé en renvoyant aux communes ou aux communes le soin de prendre à leur charge cette nouvelle compétence. Dans le même débat, si vous vous souvenez, est venue la notion de plan local d'urbanisme intercommunal. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé à Nangis de conserver un service urbanisme et de nous opposer au transfert de compétences plan local d'urbanisme à l'intercommunalité. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais sur cette question-là, c'était...
Je pense que ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est qu'on ne parle pas de la même chose, en fait. La compétence urbanisme, elle reste à la ville de Nangis.
Oui.
L'instruction des dossiers, les dossiers aujourd'hui, la compétence urbanisme à Fontaine, à Rampillon ou à Saint-Ouen-en-Brie, elle n'est pas pilotée par la communauté de communes. Vous confondez la compétence et l'instruction. Les services instruisent, demandent les pièces nécessaires et instruisent en fonction des plans d'urbanisme de chacune des communes. Il n'est absolument pas question de transférer la compétence urbanisme à la communauté de communes. Ça n'est pas du tout ça. Les services mutualisés, M. Liu, existent dans beaucoup de communautés de communes. À Nangis, vous aviez fait le choix, la communauté de communes de Nangis, que le service soit globalisé et le fonctionnement pris dans le fonctionnement global, le coût pris dans le fonctionnement global de la communauté de communes. Sur d'autres territoires, par exemple, chaque commune paye en fonction des services qu'elle sollicite. Si elle a beaucoup de permis de construire qui sont instruits par le service, elle va payer plus cher que la commune qui ne le fait pas. Ce n'est pas le choix qui avait été fait à la CCBL, mais en tout cas, là, vous mélangez deux choses. Il n'est pas question de passer en PLUI. La ville de Nancy garde la compétence urbanisme.
Il y a quelques minutes encore, vous indiquiez qu'il était important d'avoir à vos côtés des techniciens qui étaient en mesure de vous conseiller. D'accord ? Nous avons considéré qu'il était important que ces techniciens restent ville de Nancy. Et donc, nous avons conservé, effectivement, un service urbanisme qui continuait d'instruire les dossiers de la ville de Nancy en partie. Mais toujours sous la responsabilité d'un directeur, d'une directrice qui a préféré aussi quitter la collectivité, c'est bien dommage. Je sais bien, il n'y avait pas de problème. Bon, on l'a rencontré quand même. Hein. Mais toujours est-il que nous avions essayé de répondre, alors peut-être sur une façon qui ne vous convient pas, à la nécessité de solidarité avec les petites communes et de créer un service effectivement droit des sols qui siégeait d'abord dans les locaux de Nancy, et donc avec une instructrice de la communauté de communes, un instructeur de la ville de Nancy et un directeur, une directrice qui était 51% de son temps ville de Nancy, 49% de son temps communauté de communes. Donc c'est peut-être un montage un peu particulier, mais c'est au moins l'avantage d'avoir une solution de mutualisation une solution de maîtrise. Donc voilà, je sais pas maintenant.
Mutualise pour les autres et l'énergicien paye deux fois. C'est pas de la mutualisation, ce que vous décrivez. C'est que vous mettez au service de la
Lorsqu'il y avait beaucoup de dossiers nangiciens, vous aviez l'instructrice de la communauté de communes qui instruisait sous la responsabilité.
Et c'est bien pour ça, ça nous a valu quelques soucis en début de mandat. Oui,
mais c'est tout. Je sais bien que vous êtes très très dans l'idée, il faut du tarif, hein, puisque je crois que la communauté de communes, la ville de Nancy, ce sont des collectivités qui sont au service des mêmes habitants. Nous avons fonctionné très très bien, je crois, pendant un certain temps. Effectivement, que le départ de l'équipe, ça pose plus de problèmes. Mais voilà. Moi, par contre, la question que je vais vous poser, c'est donc restera-t-il un service urbanisme à la ville de Nancy et quelles en seront les compétences?
Donc, je répète, et c'est écrit dans la délibération, la délivrance des actes d'urbanisme relève toujours de la compétence du maire. Donc, on n'est pas en PLUI. Il y a évidemment un service urbanisme et il est même renforcé, puisque plutôt que d'avoir une demi-directrice, on en a une à temps complet.
Et il va faire quoi? Je pose la question. Qu'est-ce qui va lui rester? Parce que l'essentiel du travail d'un service urbanisme, c'est quand même beaucoup le droit des sols. Il y a d'autres.
Il y a quelques projets d'aménagement, monsieur Biou, qu'on va pouvoir lui confier, qu'on a déjà commencé à lui confier. Et le service commun fonctionne avec les instructions de la directrice. Les dossiers sont toujours déposés à Nancy.
D'accord. Donc le dossier des femmes logistiques, il sera instruit par la communauté des femmes.
Il l'a été, non? À Nancy?
Non. Dorénavant, il le saura.
Dans la convention, la ville garde la possibilité d'instruire elle-même les dossiers et confie au service commun les dossiers qu'elle a envie de confier au service commun. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne partout. Parce que la ville garde la compétence. Donc les dossiers structurants, évidemment qu'on garde la main.
Juridiquement, ça me paraît bizarre. Hein.
Non, c'est pas bizarre, monsieur. C'est un service commun, ça n'est pas une compétence. Et la ville a le choix de confier ou non ses dossiers au service commun. Puisqu'elle a la compétence, elle fait ce qu'elle veut. comme avant, elle ne les confiait pas, alors que pourtant elle en faisait partie. Donc les dossiers qu'elle a envie de confier, elle les confie. Les dossiers qu'elle a envie de garder, elle les garde. C'est tout. Ça n'est pas bizarre?
Ça fonctionnait pas différemment. Hein.
Alors,
nous avions...
puisque vous posez la question, je vais vous répondre. À peine, tout début septembre, nous avons été alertés, début septembre 2020, nous avons été alertés par la directrice générale des services de la ville de l'époque.
Qui est partie.
Oui. Elle nous avait alerté parce qu'il y avait eu un rendez-vous.
Elle est très heureuse.
Hein.
Bah, elle a retrouvé son compagnon.
Ah, bah, oui.
Ah, les services techniques.
Qu'est-ce que c'est plus général de...
d'une communauté de communes, elle a retrouvé son compagnon, l'ancien DSI. Voilà. Nous en verrons à faire part peut-être. Donc, nous avions été alertés d'une réunion très tendue entre. La directrice du service urbanisme qui était aussi sur le service commun, mais si je vous réponds, il faut que vous écoutiez, monsieur Bill. Donc je vous disais, entre la communauté de communes et la directrice du service ADS commun, les choses n'étaient pas fluides, parce que justement la communauté de communes trouvait qu'il y avait trop de dossiers qui étaient instruits pour Nangy, alors que ça n'était pas comme ça qu'ils voyaient les choses. Et ils ne voulaient pas que. Ils voulaient être sûrs que le temps de travail effectué pour la communauté de communes soit bien celui qui était prévu. Donc c'est comme ça que les choses ont commencé à être compliquées au service. À partir du moment où il y a eu une nouvelle agent en charge de l'aménagement à la communauté de communes qui a demandé des comptes sur le fonctionnement du service. C'est là que ça a commencé. Alors, je soumets au vote donc l'adhésion de la ville de Nangy au service commun, donc, tout en gardant évidemment la compétence urbanisme. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne l'instauration du droit de préemption sur les fonds de commerce, fonds artisanaux, beaux commerciaux et terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m². Donc ça, c'est l'intitulé du texte hein, de loi. Donc le droit de préemption est donc exercé selon les modalités prévues par les articles L213-4 à L213-7 du Code de l'urbanisme. Puisque l'un des objectifs prioritaires est le maintien de la diversité et de la vivacité des commerces du centre-ville, nous nous dotons donc d'un nouvel outil pour y parvenir. Sur les commerces de centre-ville, le péricentre et l'espace commercial de la Maroquinerie. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, j'en ai une.
Allez-y.
Je suis en train d'essayer de la retrouver. Ça porte sur la surface des commerces.
Non, c'est le texte de loi, en fait, entre 300 et 1000 m². C'est juste l'intitulé de la... Si, droit de préemption sur les fonds de commerce, fonds artisanaux, beaux commerciaux, et pour les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m². C'est mal tourné, mais c'est le texte du Code de l'urbanisme. Voilà.
C'est parfait.
Mais il faut bien le lire en deux... Les surfaces concernent les surfaces qui seraient sur les terrains, et non pas les surfaces existantes pour les fonds de commerce.
On n'a pas de souci avec cette délibération, elle était plus bonne au programme.
C'est dommage que vous ne l'ayez pas fait. Donc, qui s'oppose à cette délibération? Oui, pardon.
C'est pure forme, mais qui a son importance. À l'article 4, rappelle que cette prérogative doit conserver un caractère exceptionnel.
Parlez dans le micro, Armand.
Virgule.
Dans le micro, Armand, s'il vous plaît.
Dans le micro, monsieur le maire.
Ah oui, et limité et.
Motivé par l'intérêt général, virgule, et limiter l'atteinte.
Ah oui, parce que c'est vrai.
C'est une virgule, mais qui change un peu le sens.
Merci. Vous avez noté j'ai fait le vote ou pas? Qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Bruno, je vais vous passer la parole.
Merci.
Pour la prochaine délibération qui concerne le service public d'eau potable et le rapport d'activité du délégataire.
Je vous je présente le rapport.
Comme vous le sentez, monsieur Bruno.
Donc, je vais faire vous présenter le rapport sur le prix et la qualité du service en eau potable pour 2020. Donc, l'année 2020 était particulière. Nous avons subi la Covid et la mise en place des restrictions sanitaires. Nous avons donc une augmentation du volume annuel de 158 m3 en 2019 à 165 m3 en 2020, qui s'explique par la période de confinement. Le volume d'eau brute produit par le forage F3 de Crète passe de 659 137 m3 à 679 972 m3 en 2020. Le volume mis en distribution sur Nangy a augmenté de 6,7% en 2020, qui représente 32 905 m3, dû à une légère baisse des rendements et l'augmentation du volume vendu. La baisse du rendement et l'augmentation du volume font une augmentation de 32 000 m3. Un volume vendu au total de 445 782 m3, qui représente une augmentation 4,5%. Le prix TTC du mètre cube est de 2,75 €, stable depuis 2019. Le total des recettes pour Nangy est de 364 412 €, qui intègre la part de vente d'eau au CITEP, qui représente 274 573 €. L'ensemble des analyses physico-chimiques et microbiologiques est conforme. Nous n'avons pas non plus de dépassement des CVM. Le rendement réseau est de 85,7%. L'année dernière, on était à 87%. Voilà, donc c'est dû à la restriction du Covid, moins de recherche de fuite sur le premier semestre 2020. Et une grosse fuite a été repérée en 2021 le long d'un intermarché de la région de l'Europe.
Il y a des questions ?
Alors je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Monsieur Bruno, toujours à vous, cette fois-ci, pour l'assainissement collectif.
Pour l'assainissement collectif, le volume facturé est de 452 671 m3 en 2020. Le volume de boue produite sont seulement de 63 tonnes de matière sèche contre 156 en 2019. Notre délégataire s'est trouvé en difficulté suite à la caisse de pièces du filtre à presse et du dysfonctionnement du chloroférique, suivi de problèmes d'approvisionnement de matériel pour réparer. Une idée de dépassement des déversements dans le milieu naturel en cause des réseaux non étanches, dans lequel s'infiltrent les eaux parasites. Nous avons dû être déclassés comme non conformes pour le système d'assainissement de Nangy. Le prix TTC est de 1,65 € le mètre cube. Le total des recettes de Nangy sont de 134 001 €.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Alors je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, monsieur Bruno. Le point suivant concerne la désignation des représentants du conseil municipal au sein des différents conseils d'école. Madame Léon.
Merci, madame le maire. Alors, désignation des représentants du conseil municipal au sein des divers conseils d'école. Le conseil municipal, dans sa séance du 21 septembre 2020, a désigné les représentants de la commune au sein des divers conseils d'école comme suit. Alors, Les Roches, titulaire, Édith Lyon, suppléant, Fabrice Houllier. Maternelle Noas, Angélique Rapaille, Sylvie Poirier. Élémentaire Noas, Armande Maigret. Suppléante, Ninka Sage. Maternelle Château, Chantal Regnault-Gallois. Suppléant, Serge Hamelin. Élémentaire Château, M. Mahmoud Guenel. Suppléante, Susanna Martinez. Maternelle Rossignol, Nathalie Cuisserbe, en tout hiver, suppléant, Madame Chantal Regnault-Gallois. En élémentaire Rossignaux, nous avions titulaire M. Philippe Duc et en suppléant M. Lys-Tempès Marquès. M. de Maigret, qui siège à l'école élémentaire Noas, ne pouvant plus assumer sa présence au sein de ce conseil d'école, il est nécessaire de le remplacer. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir délibérer en ce sens. Il y a proposition de nom. Je propose, Madame le maire, vous proposez les noms.
Allez-y, madame.
Merci, Madame le maire. Nous proposons donc pour l'école élémentaire Noas, en titulaire, Madame Chantal Regnault-Gallois. Et en maternelle château titulaire, Madame Lyon-Édith.
Merci, Madame Lyon. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient?
Oui.
Alors, juste pour vous dire qu'on ne participera pas au vote, parce que là, il s'agit de votre fonctionnement interne.
D'accord.
Voilà, d'organisation de vos conseils d'information.
Merci. Alors, le point suivant, c'est Madame Lyon qui va à nouveau vous le présenter, concerne la détermination du coût de la scolarisation d'un élève pour l'année 2020-2021.
Alors, la détermination du coût de la scolarisation d'un élève pour l'année 2020-2021. La commune de Langy accueille chaque année des élèves domiciliés dans des communes extérieures. Les frais donc de scolarisation sont donc facturés aux communes de résidence. Afin de calculer au plus juste le coût de la scolarisation d'un élève, il est nécessaire de prendre en compte les frais relatifs au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, c'est-à-dire pour les dépenses. Nous avons les flux d'école, eau, électricité, chauffage, la dotation par élève, la pharmacie c'est 1 euro, fourniture scolaire 63 euros par élève. Pour les Ulysse, c'est le double 126. Les dépenses diverses pour le bon fonctionnement des écoles, fourniture d'entretien, fourniture de petits équipements, fourniture administrative, prestations de services, classe d'orchestre, école et cinéma, abonnement FAST, air qualité, entretien et réparation sur bâtiment, maintenance, intervention à TV, pour le matériel électroménager pour les écoles maternelles, le chauffage, entretien, fuite, Rossignaux. Les frais de télécommunication, les frais de nettoyage des locaux, les frais de personnel. Il y a aussi les dépenses enseignement, natation scolaire. Il y a aussi les dépenses en activité culturelle et bien sûr les recettes. Les enseignements de natation scolaire, vous avez donc enseignement natation scolaire de septembre à décembre 2020. Il y a 179 créneaux au tarif de 230 euros, un coût total de 41 170. Enseignement natation toujours, mais pour la période de janvier à juin 2021, nous avons 94 créneaux à 234,60 euros pour un coût total de 22 052,40. En ce qui concerne les activités culturelles, malheureusement, il y a des spectacles qui n'ont pas pu se faire, mais qui seront reportés en novembre prochain. Les activités culturelles, en spectacle vivant, nous avions une dépense de 1 636,31 euros, avec une recette de 285 euros. Le coût de la commune est donc de 1351,31. C'est le spectacle chocolat littéraire Materlel Rossignol. École et cinéma, malheureusement, séance annulée pour le Covid. Ensuite, les recettes, ce sont les produits de quête de mariage pour 132,50 euros. frais pris en compte sont ceux du compte administratif de l'année civile 2020. Le nombre d'élèves scolarisés, celui de l'année scolaire 2020-2021, avec un effectif au 1er janvier 2021 est de 1183. On peut faire ainsi le calcul. Total dépenses fonctionnement moins total recettes sur le nombre total d'élèves scolarisés au 1er janvier 2021 dans les écoles maternelles et élémentaires nous donne le coût de la scolarisation d'un élève. Ainsi, le coût pour l'année scolaire 2020-2021 est de total des dépenses 667 003,31 €. Total recette 132,50 €. Total général 666 870,80 €. Par le nombre d'élèves au 1er janvier 1183, on obtient donc un coût par élève de 563,71 €.
Merci Madame Lyon.
Alors, est-ce qu'il...
Allez-y pour le vote.
Je vous parle bien après.
Est-ce qu'il y a des questions?
Juste une petite observation. C'est sur la forme. Il y a un souci évidemment avec cette délibération. Mais par contre, vous visez la délibération numéro 24011 du 24 juin 2004 de mémoire. C'était la caisse des écoles qui l'avait prise, donc il faut être précisé. Ensuite, vous mentionnez que c'est au but du compte administratif de l'année 2020. Il faut repréciser que c'est du compte administratif de la caisse des écoles. Et pour clore la chronologie, il faudrait peut-être reviser ensuite la délibération que l'on a prise au présent conseil et qui intègre le budget de la caisse des écoles à la ville, parce que sinon la compréhension chronologique des faits n'est pas très bonne. Merci.
Merci Madame Galochet. Alors, qui s'oppose à cette délibération, donc avec les modifications que vous avez remarquées, Madame Galochet? Qui s'abstient? Je vous remercie. Madame Lyon, vous vouliez ajouter?
Je voulais faire une petite intervention.
Pardon.
Une petite intervention, un petit aparté. Puisque tout à l'heure, et là maintenant, on parle des écoles, j'aurais voulu parler de l'école des Roches. L'école des Roches, elle présente, et elle a présenté depuis un certain temps, des murs avec des mesures fissures, c'est-à-dire qu'il y avait des fissures, et donc on les mesurait. Bon, là, on a de la chance, ça ne bouge pas beaucoup. On a eu aussi des fuites, et là, j'aurais voulu savoir pourquoi on n'a jamais eu de recours sur cet établissement.
Vous voulez dire par rapport à des défauts de fabrication,
voilà,
de construction.
Oui.
Monsieur Guillaume, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments de réponse?
Il semble que l'histoire est largement connue. Enfin, si en face, l'école des Roches a vu son marché cassé pour un vice dans le choix de l'entreprise, puisque nous avions choisi une entreprise qui n'avait pas chiffré une option. Il y avait deux options qui étaient restées dans le cahier des charges pour un montant de 30 000 euros, les deux. Et simplement, quand il y a une option dans un marché, il faut y répondre, il faut les chiffrer. Et l'entreprise ne l'a pas fait. Notre assistant maîtrise d'ouvrage ne s'en est pas rendu compte, nous non plus. Donc le marché a fini par être cassé par le tribunal administratif. Nous avons été informés du fait que nous allions être probablement déférés au tribunal administratif si nous ne cassions pas le marché. Le problème, c'est qu'au moment où nous avons été informés par le préfet de cette décision, les fondations de l'école étaient déjà réalisées. Ce sont des fondations qui sont réalisées avec 72 micropieux de 13 mètres de profondeur. Ça fait partie des constructions qui étaient faites après la période de sécheresse, on avait tenu compte du sous-sol argileux. Donc nous avions mis effectivement beaucoup, beaucoup de précautions dans cette affaire. Donc lorsque nous avons eu à trancher entre le fait d'arrêter un chantier et de relancer un appel d'offres sur des fondations déjà réalisées, et après avoir pris un certain nombre d'attaches d'experts qui nous ont dit « il n'y aura jamais une entreprise qui acceptera de reconstruire sur des fondations coulées avec les mêmes garanties que l'on peut avoir sur une garantie décennale », eh bien nous avons décidé de poursuivre la construction de l'école et d'aller au tribunal administratif. Voilà. Le marché a été cassé, à partir du moment où il n'y a plus de marché, il ne peut pas avoir de garantie décennale.
Donc on doit comprendre que parce que vous avez forcé l'exécution, on n'a pas eu de garantie décennale, ça je comprends.
Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous avez un bâtiment dont on a coulé les fondations, tout ce qui va se construire en superstructure dessus, vous aurez effectivement des problèmes de garantie.
D'accord.
On a préféré, construire, continuer de construire avec la même entreprise.
D'accord, je repose la question. Donc le fait d'insister, alors qu'on avait un avis préfectoral négatif, fait que nous n'avons plus eu de garantie décennale. Ma réponse, elle attend un oui ou un non.
Si nous avions
non,
eu...
Non, oui ou non.
Enfin, ouais. si le chantier n'avait pas démarré, évidemment,
c'est maintenant,
le marché
aurait été cassé.
Donc le marché
ma question, elle est simple. Elle est si nous n'avons plus de garantie, pas de garantie décennale, est-ce que c'est lié au fait que le marché ait été cassé par la
tribunal, il a été cassé par le tribunal administratif.
Oui, merci.
Oui.
Voilà, tu as la réponse.
Merci.
Le dossier suivant concerne un dispositif jeunesse que nous allons mettre en place, le dispositif bourse BAFA. Voilà. Donc, il s'agit d'offrir la possibilité pour des jeunes d'accéder plus facilement à la formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur pour ensuite encadrer colo, centre de loisirs et pouvoir travailler pendant leur congé. Donc, ce dispositif sera ouvert à toutes les non-gisciennes et les non-gisciens de 17 à 25 ans qui ne bénéficient pas de la garantie jeune. La garantie jeune étant un dispositif de formation mis en place par la région. Donc voilà, soit ils sont dans un dispositif, s'ils n'y sont pas, alors ils peuvent bénéficier du dispositif mis en place par la municipalité. Les jeunes doivent envoyer CV, lettre de motivation, pour expliquer leur démarche et leur projet professionnel. La bourse est d'un montant de 250 euros qui sera versée en deux fois. Une première fois au moment du premier stage, puisque pour le BAFA, il y a trois stages, le stage théorique, le stage pratique et le stage de perfectionnement. Et donc, pour les encourager à aller jusqu'au bout de la formation, la deuxième partie de la bourse sera versée à l'issue de la formation complète. Donc, on leur demande de s'engager dans le processus pendant 12 mois, vous l'avez à l'écran. Renouvelable une fois si il y a un justificatif sérieux et motivé. Est-ce qu'il y a des questions, Madame Lacute? Donc elle concernera 5 jeunes pour cette première.
Alors oui, j'ai 3 questions. La première est plus générale par rapport à la commission. Elle a eu lieu à 17h, malheureusement M. Carvache travaillait. C'est tôt, hein, 17h, et M. Guillaume avait un empêchement personnel familial, donc on n'a pas pu y participer. Mais c'est vrai que 17h, on avait parlé des heures des commissions.
Ah non, c'était pas là.
Non.
Non.
En tout cas, M. Carvache était en grand travail, elle était à 17h, il me semble. Donc savoir si c'est possible. 18h.
secteur, c'est plutôt voilà, leur groupe de finance qui travaille moins. Bon, je parle en son nom, mais voilà, je pense qu'il ne m'en voudra pas. Donc du coup, on n'a pas pu participer. Donc j'ai une question. Déjà, je voulais savoir si le service jeunesse allait continuer à travailler parallèlement hein, à cette délibération avec l'organisme, un des organismes qui organise le BAFA, parce qu'on avait réussi à négocier des prix vu le nombre de personnes qui pouvaient en bénéficier. Donc je voulais savoir si c'était un travail qui pouvait se mener encore parallèlement à cela. Et je vais avoir, enfin nous allons avoir notre groupe la même réflexion qu'on a faite au mois de juillet concernant le nombre, en fait, là vous limitez le nombre de 5 jeunes de 17 à 25 ans et vous ouvrez un dispositif, mais en fait qui est limité, donc quelque part ça peut discriminer certains jeunes, si c'est le 6e ou 7e, et lui il ne pourra pas en bénéficier dans l'année. Donc je voulais savoir si vous pouvez.
Mais vous avez raison, et de toute façon, enfin, là je l'ai déjà barré, c'était une erreur de le remettre. Donc on verra en fonction du nombre de CV, en fonction des jeunes qui se présenteront, mais il n'y a pas de nom.
D'accord, donc vous enlevez la.
On l'estime ici dans le budget, voilà, d'accord. Et après on verra en fonction des candidatures.
Donc là, vous enlevez la partie d'ici que le nom.
Donc l'article 2, vous pouvez enlever la première.
Très bien. Donc nous
la partie sur le nombre de.
Cette délibération, par contre, il faudra du coup bien l'enlever aussi sur la notice.
Et pour répondre à votre question, là aussi, certainement, nous avons une vision différente des choses. Nous souhaitons que les jeunes sortent de Nangy pour se former et rencontrent à cette occasion-là d'autres jeunes. Donc l'idée n'est pas de travailler avec un organisme de formation qui viendrait former au SMJ. Le but n'est pas que les jeunes soient au centre de loisirs à Nangy, puis jeunes fréquentant le SMJ, puis faisant leur formation à Nangy, puis restant à Nangy. Non, au contraire, on pense que plus ils se confronteront à d'autres expériences, à des organismes de formation peut-être différents entre leur stage de base et leur stage de perfectionnement, plus ils rencontreront d'autres jeunes, en étant en particulier en internat. Ce qui est complètement différent, un stage BAFA en internat ou un stage BAFA en externat, du tout les mêmes, la même implication et les mêmes conséquences. Donc nous ne nous orientons pas vers le travail, vers la collaboration avec un organisme particulier qui viendrait dispenser ces formations à Nangy. Ça n'est pas notre objectif. Et ce dispositif est en complément des dispositifs qui existent déjà, notamment financés par le département.
Oui, oui.
Les deux sont cumulables, bien sûr.
Ils sont cumulables.
Oui.
D'accord. Donc, bah, si vous supprimez le nombre, bien sûr, comme indiqué, on votera pour la délibération. Bon, par contre, on trouve dommage qu'il ne puisse pas y avoir quand même les deux formules, par exemple, peut-être. Bon, mais ce n'est pas l'objet de la délibération.
On sait que nos jeunes ont déjà une tendance à avoir des problèmes de mobilité,
oui,
à avoir. On préfère les accompagner pour qu'ils résolvent leurs difficultés. Plutôt que de rester là, toujours dans le même contexte, dans le même. Ce qui n'est pas du tout intellectuellement stimulant. Mais c'est notre manière de voir les choses.
Cela dit, oui, les stages ne font pas que leur stage à Nangy, hein. Il y a plein d'autres communes.
Non, mais si on fait venir un organisme formateur à Nangy, forcément ça se fait à Nangy. Même si c'est avec d'autres, mais c'est dans un quartier qu'ils connaissent, dans des locaux qu'ils connaissent, dans des.
Voilà. Non, vous pouvez faire votre formation BAFA à Nangy et faire les stages sur d'autres.
Les stages, mais la formation, elle est bien à Nangy.
Oui, bah, comme.
Oui, avec, bah, on a accueilli à Nangy d'autres jeunes qui n'étaient pas de Nangy. On n'a pas de désaccord formel sur cette question-là, donc c'est pas une différence de vision. Moi-même qui étais formateur d'animateur pour les CMEA, je travaillais toujours en internat. Et je pense que c'est mieux, je suis d'accord. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus cher. Et le problème du BAFA, c'est que c'est une formation payante, chère, et que le dispositif que nous avions mis en place était un dispositif qui permettait évidemment de faire beaucoup chuter le prix de la formation sans
sans faire chuter la qualité. Problème, effectivement, oui. Plutôt d'ailleurs, peut-être une formation destinée à des accueils de loisirs qu'à des centres de vacances. Mais malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, les centres de vacances sont nettement en termes de vitesse. Donc, aujourd'hui, les titulaires de BAFA, ils sont plutôt, ils travaillent beaucoup plus dans des accueils de loisirs que dans des centres de vacances. Voilà la raison pour laquelle nous avions mis ces dispositifs-là en place, qui n'étaient pas limitatifs du point de vue du nombre, c'est-à-dire que tous les jeunes de Nangis qui souhaitaient s'inscrire à la formation bénéficiaient d'un tarif privilégié. Et donc, l'aide cumulée était d'un montant forcément supérieur à celle que vous avez proposée.
Mais nous proposons ce dispositif et nous en proposons d'autres. Monsieur Billou, vous le savez, nous en avons voté et ils ont été mis en place cet été. Le dispositif argent de poche, les chantiers jeunes, plein de dispositifs pour que justement les jeunes puissent se prendre en charge et financer les formations qui les intéressent, dont la formation BAFA. Et celui-là vient en complément.
On est intéressé d'ailleurs par avoir un petit bilan de ce qui s'est mis en place cet été. Oui.
Parfait. On l'a demandé au service. Nous l'avons demandé au service, Madame Lavitte. Nous avons anticipé votre vote.
Alors, je vais d'abord procéder au vote, si vous le voulez bien, et ensuite je vous ferai le bilan de cet été. Donc, pour le dispositif Bourse BAFA, qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie. Le bilan, vous le voulez maintenant ou après la bourse permis de conduire? On passe les deux, comme ça ce sera fait. Alors allons-y, donc pour la bourse permis de conduire, donc même principe. Le but, c'est de favoriser la mobilité des jeunes, évidemment, mais aussi de découvrir le milieu associatif et le bénévolat. Et donc, ce qui est proposé pour tous les jeunes nangistiens de 16 à 25 ans, c'est de s'engager à effectuer 60 heures de bénévolat dans une association nangistienne. Pour postuler, ils devront donc envoyer CV, lettre de motivation, expliquer leur démarche et le type de projet. Et donc, l'engagement dans ce dispositif leur permettra d'obtenir une bourse pour les aider à financer leur permis de conduire, d'un montant maximum de 400 euros qui sera versé en deux fois directement auprès de l'entreprise où le jeune passe son permis. Donc il y a déjà des contacts qui ont été pris depuis quelques temps avec les associations pour voir. Avant qu'on soumette, on a évidemment échangé avec les associations pour savoir si elles étaient prêtes à nous accompagner dans un tel projet et accompagner les jeunes. Les réponses ont été très positives. Donc voilà ce que nous soumettons au vote aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif précis ? Donc je vous propose de le soumettre au vote. Ah pardon.
C'est juste deux petites fautes de frappe. Dans l'article 3, pour que le jeune honore son engagement auprès de l'association qui l'accueille, c'est le verbe accueillir, donc de ces jeunes. Et j'ai vu également, il y a l'article 2 aussi qui ne sont pas encore inscrits par l'Internet.
Oui. Merci, Madame Galochet. Donc, qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, j'en profite pour donc informer le conseil municipal d'un bilan des actions de l'été. Donc, pour cet été, il y a eu un chantier jeune qui s'est déroulé du 5 au 16 juillet 2021. Et le dispositif argent de poche qui s'est étalé sur le mois de juillet et sur le mois d'août pour les jeunes juste avant leur majorité, donc uniquement pour les jeunes de 16 à 17 ans. Essayer d'aller à l'essentiel. Donc les jeunes ont réalisé des entretiens, à l'issue ils ont été sélectionnés, enfin voilà, on leur demandait une réelle démarche pour postuler. Il y a eu ensuite une réunion pour présenter le dispositif aux familles, avec les élus du secteur, également avec les services techniques, et puis évidemment la direction et les agents du service jeunesse, puisque c'est le service jeunesse qui pilotait ces dispositifs. Les entretiens ont été réalisés par les agents et du service technique et du service jeunesse, ce qui était très intéressant également. Donc pour le chantier jeune, deux garçons et deux filles, stricte parité. Les détails, j'essaye d'aller à l'essentiel. Où habitent les jeunes? Centre-ville, rue adjacente, Marocuré, on s'en fiche. Première expérience professionnelle pour la majorité de ces jeunes. Les jeunes se sont bien impliqués, les retours ont été très positifs et par les encadrants et par les familles. Toutes les familles étaient présentes à la réunion, par exemple. Voilà, c'est un indicateur important. Malgré la météo pluvieuse, la mission de rénovation du mur du cimetière a été terminée dans le délai imparti. Donc l'encadrement était assuré par un agent du service technique, hein, qui est peintre de formation. Et puis, quand il y a eu quelques moments de pluie, ils ont trouvé un autre local à rafraîchir. Donc ils ont pu exercer leur talent sur un autre mur. Voilà, pas de soucis particuliers, respect des consignes, pas de retard, enfin voilà, tout s'est parfaitement bien déroulé. Pour le dispositif argent de poche, donc là il y avait 18 candidatures et 8 jeunes qui ont été retenus, puisqu'ils étaient par binôme, 2 par quinzaine. Et pour rappel, donc les jeunes travaillaient uniquement le matin. Voilà. Donc tous les jeunes sont venus. Pareil, première expérience professionnelle pour la majorité d'entre eux. Aucune absence n'a été à déplorer sur les 2 mois du dispositif. Respect des consignes. Les jeunes étaient donc encadrés là encore par des agents du service technique. Alors pour ceux du chantier, je ne l'ai pas dit, ceux du chantier donc ils sont attelés au mur du cimetière. Le midi, ils étaient pris en charge et mangeaient au restaurant municipal avec les encadrants et du service jeunesse et du service technique, ce qui était aussi un moment d'échange intéressant et sur les métiers et sur beaucoup de choses. Très bonne implication des familles également, hein, qui étaient présentes également, qui ont été satisfaites du dispositif. Ça a permis pour ces jeunes de découvrir le travail réalisé au quotidien par les agents du service technique, puisqu'ils les ont accompagnés dans leur mission. Ça leur a permis de mettre un pied dans le milieu du travail et voilà, de désherber, de, voilà, de découvrir ce qu'était la vie d'un service technique et les missions qui étaient confiées aux agents. Donc ils ont exercé des missions polyvalentes de rangement, de balayage, d'entretien des voiries, d'espaces verts, etc. Voilà. Un bilan quantitatif et qualitatif. Donc nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que le dispositif du chantier jeune va être reconduit pour les vacances de la Toussaint, avec un chantier consacré à la peinture des vestiaires du gymnase. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le point suivant. L'autorisation de principe pour le recrutement de vacataires pour les études surveillées. C'est de la ressource humaine, là, c'est vous, monsieur Ansel.
Merci. Donc, délibération que vous trouvez sur table, puisqu'il y a eu une petite évolution liée au décret paru ce matin. Comme vous le savez, la municipalité a mis en place en janvier 2021 le dispositif des études surveillées. Ces études sont à ce jour encadrées uniquement par des enseignants exerçant dans les écoles de la ville. Afin de satisfaire un besoin qui peut être fluctuant et ponctuel sur les différentes écoles, il est nécessaire d'avoir recours à des agents vacataires. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas d'agents contractuels de droit public. Ils seront recrutés dans des conditions suivantes. Exécuter un acte déterminé de manière discontinue dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la collectivité. La rémunération sera attachée à l'acte et selon les taux suivants. L'agent vacataire enseignant, autre qu'en primaire, un taux horaire brut de surveillance études 13,40 euros. Taux horaire brut d'encadrement études 2, 25,15 euros. Agent vacataire avec un profil non enseignant, 11,60 euros. Ce taux ne pourra pas être inférieur à l'indice de rémunération afférent au premier échelon de l'échelle C1 majoré de 10% et sera revalorisé automatiquement. Taux horaire brut d'encadrement études niveau 2, 18, 25. Vous avez l'explication de ce qu'est le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 1, c'est prendre en charge et récupérer les enfants inscrits à l'étude dans la cour, renseigner la liste de présence, récupérer et distribuer le goûter, assurer la surveillance des élèves placés sous leur responsabilité. Le niveau 2, on s'assure que les enfants apprennent leurs leçons et font leurs devoirs correctement. On apporte une aide pour une meilleure compréhension des consignes données par l'enseignant au profit des élèves. On assure la discipline du groupe d'élèves placés sous leur responsabilité, on accompagne les élèves à la sortie de l'établissement et on veille à ce qu'ils soient récupérés par un adulte ou autorisés à rentrer seuls. C'est une façon aussi de contrôler. On confie les enfants aux animateurs aussi de l'accueil périscolaire. Il appartient donc à l'organe délibérant d'autoriser le recrutement de vacataires et de déterminer les différents taux de vacation. Dans ce contexte, nous invitons à bien vouloir délibérer sur cette affaire. Avez-vous des questions? Madame Cosseron.
Madame la maire, nous aimerions avoir un bilan de cette expérimentation. Nous pouvons nous apercevoir que les enseignants n'en sont plus mobilisés, car pas assez de volontaires. Le service va donc perdre en qualité, d'autant que vous différenciez le taux horaire selon si cela est un instituteur ou un agent vacataire. Mais les parents, eux, paieront le même tarif. Et d'ailleurs, Mme Galochet va vous donner quelques informations complémentaires. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre.
En fait, ce n'est pas des petites précisions complémentaires. Je voulais juste vous poser une question concernant le calcul des taux horaires pour les vacataires enseignants autres que primaires. Je m'explique. Ont-ils été déterminés en fonction... Alors, pour eux, ce sont des activités accessoires. Et donc, pour ces activités accessoires, pour qu'ils puissent participer à ce genre de vacations complémentaires, les enseignants reçoivent l'agrément de la DASEN et la rémunération, dans ce cas, elle est encadrée par un décret et un arrêté ministériel qui revalorise. Et comme je n'ai pas retrouvé, moi, les montants que vous portez dans votre délibération par rapport à ces arrêtés ministériels définitifs, voilà, c'est juste un questionnement. Hein, est-ce que vous êtes sûr des montants qui sont indiqués? Sinon, évidemment, par rapport à la DASEN, c'est sûr qu'ils n'auront pas leur agrément.
Madame Galochet, dans le cadre de ce personnel, il n'y a pas de décret, en fait. Ça dépend en fonction des catégories. Et c'est pour ça qu'on les recrute en tant que vacataires. Le décret que vous citez, c'est lequel? C'est quelle catégorie de personnel?
C'est je ne parlais que des agents vacataires enseignants autres qu'en primaire. Il y a un décret qui a suivi la loi de décentralisation de 1982, qui doit être, ça remonte à très loin, hein, ce qui doit être de 2000 et quelques. Et après, chaque année, vous avez des arrêtés ministériels qui revalorisent justement les taux horaires en matière de surveillance cantine, études surveillées, etc., ou encadrement. Et ça concerne alors toutes sortes de catégories d'enseignants. Ça peut être des écoles primaires, ça peut être des directeurs d'école, ça peut être également des enseignants du collège, etc. Et en fait, leur taux horaire ne doit pas dépasser le dernier décret, arrêté ministériel qui a revalorisé ces indemnités, mais elle tape, enfin, le décret, je ne peux pas le citer de mémoire, parce que je n'ai, voilà, je n'ai plus en tête. Mais c'est, voilà, ce sont des montants vraiment qui sont déterminés, et à mon avis, le dernier arrêté ministériel qui a revalorisé date de 2017.
Là, on s'est aligné sur les taux du primaire.
Là, tel que l'arrêté ministériel est paru et que je l'ai retrouvé, les taux que vous mentionnez sont beaucoup plus importants. C'est... Après,
ils ne sont pas soumis au même. Enfin, s'ils ne sont pas soumis au même taux de cotisation salariale.
Oui, bien sûr, parce que c'est de l'activité accessoire, voilà. Il n'y a aucun taux de. Oui, tout à fait. D'accord. Mais ça n'empêche pas que la rémunération brute doit vraiment suivre l'arrêté ministériel.
C'est pour que, en fait, le souffle, c'est pour qu'il ait le net, un net similaire. Que le résultat net pour l'individu soit le même. Et ça permet aussi de motiver les gens, puisque vous parliez tout à l'heure d'une absence de motivation. On est quand même obligé de recruter parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont favorables à ce que nous maintenions cette activité.
Non, simplement pour compléter, vous avez demandé un bilan. Je crois qu'il avait été fait en fin d'année, il me semble que ça avait été évoqué.
Déjà, dans un premier temps, on a sur l'école des Roches, qui est notre école.
Je ne suis pas la micro.
Ah, excusez-moi, j'ai l'impression de parler fort. Alors, un premier retour, c'est-à-dire que sur notre école pilote, l'école des Roches, nous avons eu un retour favorable des enseignants, puisque c'est cela que l'on attend, c'est-à-dire un retour favorable, puisque ces études ont permis à des enfants qui avaient des problématiques de pouvoir les accompagner et enfin avoir des résultats et avoir des évaluations beaucoup plus améliorées. Donc ce dispositif des études surveillées pour nous, pour cette école des Roches déjà, c'est une très bonne, on pense que c'est une bonne initiative de notre part d'avoir mis en route ces études surveillées. Et sachez qu'à partir du 4 octobre, toutes les écoles donc, auront des études surveillées.
Donc s'il y a un besoin de recrutement supplémentaire, ce n'est pas parce que les enseignants ne sont pas motivés. C'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants et de familles qui sont inscrits.
Par exemple,
après, c'est le libre choix des enseignants, et on peut aussi parfaitement comprendre que des enseignants qui ont fait déjà leur journée n'ont pas forcément envie de poursuivre. Voilà, ça c'est la liberté de chacun.
C'est la base du volontariat.
Bien sûr, c'est la base du volontariat.
On peut connaître le nombre d'enfants qui en ont bénéficié à l'école des Roches.
On a deux classes d'ouvertes,
sur 15,
avec
15
enfants.
Chacune.
Donc 30 enfants à l'école des Roches. C'est ça, Mme Tussain ?
Un peu moins quand même, on a été autour de 25-26.
Donc qui est contre cette délibération ?
Nous continuerons de nous abstenir. Pensons que malgré tout, même par rapport à ce que nous Mme Lyon, où elle reconnaît que le fait que ce soit des enseignants qui ont pris en charge cette activité-là, un lien pouvait se faire effectivement avec l'activité scolaire. À partir du moment où on recrute des vacataires, ce lien effectivement sera plus
scolaire. Les vacataires qui ont été recrutés apprécieront le peu de considération que vous leur.
Ils sont pas enseignants, excusez-moi, c'est un métier.
Non, mais au moins vous êtes cohérent. Vous étiez abstenu en janvier, vous continuez à vous abstenir, il n'y a pas de souci. Qui vote pour ? Non, ce n'est pas besoin. Qui est contre, c'est bon.
C'est parmi
Le point suivant.
Alors, 20e délibération, la dernière, et les modalités d'attribution d'un véhicule de fonction ou de service avec remisage. Donc, la législation prévoit la possibilité d'attribuer un véhicule de fonction. fonction ou d'accorder un véhicule de service avec remblage dans certaines conditions. Il s'avère qu'aujourd'hui, nous avons un directeur des services techniques qui a un véhicule de fonction, il y avait un de service, pardon, vous avez raison, Delphine. Il y avait un DGS qui avait un véhicule de fonction et nous avons un agent qui fait office d'eux. Donc le véhicule de fonction peut être attribué par nécessité absolue du service à une certaine catégorie d'agents occupant certains emplois. Alors un ANJ, attribution est possible pour l'emploi du directeur général des services et des 2,5 000 habitants. Le véhicule de service avec remisage, c'est un véhicule qui permet pour les besoins du service à l'agent d'avoir un moyen de déplacement. Un ANJ est proposé d'accorder ce véhicule à l'agent qui occupe l'emploi de directeur des services techniques et à l'agent occupant l'emploi de directeur du secrétariat général faisant fonction du directeur général des services. Compte tenu de la disponibilité demandée sur cet emploi, le véhicule pourra être remisé au domicile de l'agent. L'avantage en nature est le temps de l'utilisation à titre privé la semaine sur les trajets domicile-travail sera négligé car il est considéré comme le prolongement des déplacements professionnels. En dehors de ces trajets, le véhicule ne pourra pas être utilisé à des fins personnelles et ne constituera donc pas un avantage en nature. Avez-vous des questions concernant cette délibération ? Des questions ? Madame la doute ?
Non. Je ne sais pas, donc c'est dans mon axe, c'est pour ça.
Qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, l'avant-dernière délibération concerne le protocole relatif au temps de travail. Je vais vous laisser la parole, Monsieur Lancel, mais je voudrais quand même avant. Saluer le travail qui a été mené par notre directrice des ressources humaines et son service et l'ensemble des services de la commune qui ont travaillé pendant de longs mois pour aboutir à ce protocole qui a été voté à l'unanimité en comité technique. Et les représentants des personnels ont salué le travail collaboratif qui avait été mené dans les différents services. Donc, un grand merci pour la qualité du travail effectué.
Merci, madame. J'aurais pu donner lecture du compte-rendu, mais ça va être long sinon. Alors, moi, je le sais pour madame Lacoute quand même, je vais juste dire ça, parce que c'est vous qui êtes encore une fois. Mais j'ai juste le. Délégué du personnel qui a remercié la collectivité parce que nous avons concerté les agents et je vous aurais compte rendu où on nous a quand même bien spécifié que vis-à-vis avec le RIFSEP, ils n'avaient pas forcément été consultés et ils avaient profondément regretté. C'est pour ça qu'apparemment ils votaient contre. Enfin, c'est quelque chose qui est écrit. C'est quelque chose qui a été redit. Vous l'aurez dans le compte rendu, c'est pas grave. Donc j'ai passé la délibération 21, le protocole du temps de travail. L'article 47 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge les régimes dérogatoires à la durée légale de travail obligeant les collectivités territoriales dont le temps de travail est inférieur à 1607 heures, ce qui est le cas à se mettre en conformité avec la législation. Le protocole du temps de travail actuel prévoit un temps de travail maximum annuel de 1568 heures. Les collectivités disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leur assemblée pour prendre une nouvelle délibération définissant les règles applicables aux agents. Le présent protocole s'appliquera donc à partir du 1er janvier 2022. Le protocole du temps de travail est un document de référence pour la collectivité en matière d'aménagement et de gestion du temps de travail. Il fixe les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la collectivité. La définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant après avis du comité technique. Par ailleurs, ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Le décompte du temps de travail s'effectue sur l'année, la durée annuelle du travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies. Ce principe d'annualisation garantit une égalité de traitement, en ce qui concerne le temps de travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d'organisation de ce temps différent selon la spécificité des missions exercées. Les cycles peuvent donc varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la nature des fonctions exercées. Les cycles peuvent donc, je viens de vous le dire, être modulés. Le temps de travail peut également être analysé, notamment pour les services alternant des périodes de haute activité et de faible activité. Par exemple, la culture, il peut y avoir des moments où les choses ne sont pas en même temps. Dans ce cadre, l'annulation du temps de travail répond à un double objectif, répartir le temps de travail de l'agent pendant leur période de forte activité et le libérer pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. On maintient une rémunération identique tout au long de l'année, c'est-à-dire y compris pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales prévues par la réglementation sont respectées. La réflexion sur la réforme du temps de travail a été conduite comme suit, réflexion autour des horaires d'ouverture des services et des besoins de services publics, augmentation du temps de travail hebdomadaire avec attribution des RTT pour permettre aux agents d'avoir au minimum le même nombre de jours de repos que ce dont ils disposent actuellement par année civile. C'est une concertation que nous avons menée alors que nous aurions pu, entre guillemets, d'autorité imposer certaines choses. Principe de régime de temps de travail identique pour les responsables de service et les encadrants intermédiaires. Mise en adéquation de l'organisation du temps de travail avec des contraintes effectives rencontrées dans les services et par les agents. L'élaboration de ce protocole et l'organisation du temps de travail dans les services ont fait l'objet de larges concertations depuis le mois de janvier 2021 dans le cadre de groupes de travail constitués d'agents, de représentants syndicaux, mais aussi d'élus volontaires.
De la majorité.
Exact. 35 personnes se sont portées volontaires, dont 3 élus de la majorité, ce qui démontre l'intérêt fort pour ce sujet. 2 réunions d'introduction ont été organisées pour informer les 35 personnes volontaires de l'obligation faite par la loi de transformation de la fonction publique de supprimer les régimes dérogatoires et de la volonté de la municipalité de concerter les services et les agences sur la mise en œuvre. Chaque personne a pu exprimer ses interrogations, inquiétudes et souhaits. À l'unanimité, les participants ont exprimé la prise de conscience et la volonté d'avoir une augmentation de leur temps de travail afin de ne pas perdre de jours de repos. Suite à ces 2 réunions, les groupes de travail suivants ont été constitués. Un groupe de travail sur la situation des agents bénéficiant déjà des RTT, une réunion du groupe de travail et un vote organisé en réunion directeur. Un groupe de travail sur la rédaction du nouveau protocole, 3 réunions. Un groupe de travail par service afin de définir la déclinaison du protocole en tenant compte des souhaits de la municipalité quant à l'ouverture et au fonctionnement des services municipaux et des contrats liés à l'exercice de mission des agents. 27 temps de concertation. Un groupe de travail sur la mise en place du télétravail, 3 réunions dont 2 d'une journée avec l'accompagnement du CNFPT en formation de tous les directeurs. Le temps de concertation par service ont permis également de s'interroger sur l'organisation du travail et de pouvoir répondre à des observations formulées par les agents sur la question de la pénibilité au travail. Les propositions faites par les agents ont été prises en compte et des améliorations ont été proposées. Les propositions d'organisation du temps de travail ont été systématiquement concertées et adoptées à l'unanimité par chaque groupe de travail, service. Les temps d'accompagnement seront prévus d'ici la fin de l'année afin que les agents chargés du suivi du temps de travail puissent s'approprier les nouvelles règles et de nouveaux outils de suivi qui seront mis à disposition. Avez-vous des questions ? Monsieur Guillaume.
Tout d'abord, nous saluons notre conscience du travail qui a été conduit pour arriver à ce résultat, aucun doute sur
la qualité de la façon dont ça a pu être conduit. Deux questions. Vous avez indiqué que vous aviez pris en considération les remarques concernant donc, la pénibilité de certains postes. Alors ça, par contre, j'ai un peu de mal à le retrouver dans le document, en quoi finalement c'est la pénibilité de certains postes a pu être pris en compte dans le portefeuille du temps de travail.
Là, typiquement par l'amélioration de certains outils techniques, si je prends le cas de la cuisine, avec des améliorations mécaniques, c'est une amélioration pour
pas,
les agents.
C'est pas dans le protocole du temps de travail, ça.
Non, mais malgré tout, ça reste des choses qui sont des améliorations. Vous savez, on n'améliore pas forcément qu'avec le temps, on améliore aussi avec la qualité des outils qui sont mis à disposition des agents.
Je ne sais pas, j'en ai absolument aucune idée. Donc ça, avant, on ne travaillait pas du tout sur ces questions-là. On ne travaillait absolument pas en concertation avant, monsieur Ancel.
Oui.
Avec les délégués du personnel, les organisations syndicales, on n'avait jamais de temps de concertation. Donc, vous avez
oui, bien sûr, mais bon, on peut
vous donner. Vous savez bien que vous avez toujours besoin d'être rassuré, de vous dire que vous faites toujours mieux que les autres.
J'essaye surtout de faire moins mal. Voyons. Par exemple, regardez, on va vous donner des exemples. Allez, on va vous faire plaisir. Agent HPL, tous les nouveaux plannings ont été réfléchis afin de mettre en place des binômes afin de réduire au maximum le travail isolé, de rapprocher géographiquement les lieux d'intervention.
Absolument pas avant ça.
Pardon ? Ben non.
Ben non,
puisqu'on met en place, ça n'existait pas.
Service HP,
restauration.
Quand on l'a mis en place, c'était justement pour aller dans ce sens-là. Et on a une directrice qui a fait un travail extraordinaire.
C'est fantastique. Alors.
Avant que vous arriviez, c'est extraordinaire.
Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait des belles choses alors ? On ne revient même pas. Restauration collective, la réforme permet d'augmenter le temps de travail en période scolaire et comme pour les SM, de pouvoir effectuer l'ensemble des tâches avec moins de précipitation. Qui autrement, on offre plus de temps pour faire le même temps de travail. C'est-à-dire qu'on a des jours d'ARTT, des jours en plus, on n'augmente pas le nombre d'actions à faire, on augmente le temps pour les faire. Donc on a plus de qualité pour faire le travail. Donc on diminue la pénibilité. La police municipale, le samedi matin. La police municipale, le samedi matin est désormais inclus dans le roulement et le temps de travail, ce qui permet de réduire la réalisation d'heures supplémentaires. Moins d'heures supplémentaires. Donc on crée de l'emploi. De quoi vous plaignez-vous ? Fantastique.
Vous avez créé
moins de charges de travail pour les agents.
À la police municipale. À la police municipale, oui. On a plus de. On a été élu pour faire quand même des choses. Le culturel, des plannings ont été proposés qui pour la première fois. Écoutez bien ça, c'est important. Le culturel, ça vous tenait à cœur. Des plannings ont été proposés qui pour la première fois respectent toutes les prescriptions minimales liées au temps de travail.
Ça n'était pas le cas.
Devons-nous comprendre qu'avant, on ne respectait pas le temps de travail. La DGS, désormais l'agent qui participe au conseil municipal est de repos le matin du conseil et le lendemain matin afin de respecter le temps de repos minimum obligatoire et de réduire notamment le risque d'accident de trajet. J'articule. Merci. Je dis simplement, nous disons simplement que nous mettons en place des améliorations que vous avez en liste.
Ça n'existait pas avant le repos pour les agents qui sont là.
C'est pour les agents qui vont être là jusqu'à 23 heures parfois. Donc
Tant mieux que ce protocole du temps de travail permette certaines améliorations, puisque globalement, pour l'ensemble des agents, c'est un recul, c'est une augmentation de leur temps de travail.
Exact. On est passé de 1568 à 1607, on applique les règles. Allez, un dernier exemple.
Heureusement qu'il y a effectivement un certain nombre de compensations par rapport à cette loi.
Mais non. Vous indiquez des compensations sur quelque chose qui était un avantage, entre guillemets, monsieur Bill. On remet les choses à plat. Nous ne sommes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Regardez le service technique, elle est dernière. À l'unanimité, à la salle, les objectifs, on n'a pas les mêmes objectifs. Ça, je suis d'accord. À l'unanimité, les agents ont sollicité de travailler une heure en supplément le mercredi afin de pouvoir intervenir en équipe plus efficacement dans les écoles. C'est même les agents qui proposent de travailler plus pour conserver leur temps. Enfin, je pense que dans ces conditions-là, les agents sont plutôt satisfaits, et ça est pour ça que je ne citerai pas son nom, parce que ça ne se fait pas, indique que les membres du personnel renoncent à une possibilité d'avoir accepté de concerter les agents, car cela précédemment nature, cela n'était pas le cas. Exemple de la mise en place du RIPSEP. Les organisations syndicales n'étaient pas du tout interrogées.
Alors, la mise en place du RIPSEP, vous avez obtenu un vote favorable en comité technique sur les derniers les applications de décret?
Non, ils votent contre. Alors, juste alors, pourquoi? Parce qu'avant, ils n'étaient pas concertés. C'est une punition, alors, comme vous le faites d'ailleurs, quand vous s'agit de buter
là, il y a des choses qui n'existent pas. Toujours contre. Et avant, il n'y avait pas de concertation.
Ben non, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la méthode de mise en place.
Mais là, ça, vous allez avoir à me le dire comme ça. De toute façon, ce n'est pas nous invités.
Vous aurez le compte-rendu écrit. Vous aurez le compte-rendu. Vous aurez le compte-rendu écrit.
On a encore un certain nombre de relations avec beaucoup d'agents qui discutent quand même encore avec nous. Et je vous invite d'ailleurs à beaucoup de modestie, parce que la perception des choses n'était pas forcément celle que vous imaginez. Un regret,
quand même, parce que je pense que vous en avez plus. Monsieur Lancel n'a fait que relater ce qui est écrit au compte rendu du CHSCT.
Oui, on n'y est pas. C'est pas un souci. Autre question, pourquoi n'avoir pas laissé la possibilité d'utiliser les journées d'ARTT pour permettre de conserver une sixième semaine de congé payé? Là, c'est possible en gros pour ceux qui font 39 heures par semaine, mais là, vous avez un article qui indique que le nombre de jours d'ARTT doit être pris, cumulé sur l'année, doit être donc prise par quart et par trimestre. Donc en gros, un agent qui fait aujourd'hui 37 heures, il ne pourra prendre, aura un capital de 12 journées de RTT dans l'année, donc il ne pourra en prendre que 3 par trimestre, ce qui ne fait pas une semaine de l'année.
Parce qu'en fonction de l'absentéisme, on ne peut pas piloter le nombre de jours. Et à titre personnel, il me semble préférable qu'il puisse se reposer, puisque c'est un repos compensatoire d'une période d'activité en excès. Donc, ce n'est pas du congé, c'est une compensation pour la RTT. Donc, 3 jours,
les 4 mois.
Pardon ?
Mais ça, c'est un véritable repos.
Ils peuvent cumuler avec des congés payés. Rien ne les en empêche. Et autrement, il prend 3 jours d'un côté, 3 jours ou 2 jours de l'autre. Ça marche. Donc, ça fonctionne.
Alors, qui s'oppose à ce projet de délibération? Qui s'abstient?
Qui s'abstient pour ce motif-là, voir tellement fait sauter la sixième semaine de congé de maladie.
Des créations de postes.
Alors, les créations de postes, et oui, on crée des postes, et après on les annule. Donc, la création de postes, dans le cas des avancements de grade au titre de l'année 2021, il est nécessaire de créer les postes suivants. Un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps complet, un poste d'adjoint du patrimoine principal de première classe à temps complet. Lorsque ces postes seront vacants, après la nomination effective des agents, c'est-à-dire une fois qu'ils auront changé de grade, ils feront l'objet d'une suppression après l'avis du comité technique. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur cette affaire. Une question, madame la ministre.
Qui s'oppose à ce projet de délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous en avons donc terminé avec les délibérations. Nous avions reçu 2 questions de monsieur Guillou. L'une, vous l'avez posée en introduction.
Il en reste une.
Il vous en reste une. Allez.
Donc la parole. Elle portera donc sur le refus de permis de construire concernant l'implantation de terrains logistiques dans les Alpes et Nord-Gis agricoles. Madame la maire, suite au souhait évoqué par monsieur le troisième vice-président de la communauté de communes de la Nord-Gisienne, en charge du développement économique et également votre premier adjoint, en bureau communautaire le 1er juillet dernier, une négociation s'est engagée avec FM Logistique afin que cette entreprise améliore son offre financière pour l'acquisition des 130 000 mètres carrés nécessaires à son implantation dans la ZAC Nanchis-Actipol. le 28 juillet, à 9h31, précise, un courriel du président de la CCPM, transmis par son secrétariat à l'ensemble des conseillers communautaires, nous a informé qu'il avait conduit la négociation et que par courrier daté du 23 juillet, FM Logistique acceptait d'améliorer son offre de 5 euros hors taxe par mètre carré, ce qui constituait pour la communauté de communes une recette supplémentaire d'environ 650 000 euros. Lors de sa dernière séance du 23 septembre, le Conseil communautaire a accepté cette offre avec une nette majorité. Vous avez voté contre, comme tous les conseillers communautaires de votre groupe. Il est vrai que M. le troisième vice-président de la communauté de communes de la ville d'Angicienne en charge du développement économique, toujours votre premier adjoint, dans un courrier transmis le 28 juillet à 10h06, regrettait que l'augmentation proposée ne soit pas suffisante. Il aurait souhaité 2 euros de plus. Et il conclut par ses propos, je cite, « Je réitère mes propos sur la qualité de notre patrimoine commun et sur l'erreur majeure de le brader. Aussi, il me semble urgent que nous mettions de la compétence quant à sa valorisation. » Vous nous permettrez un premier commentaire concernant la compétence. Il y avait un agent de développement économique particulièrement compétent à la CCPM, mais après de nombreux conflits avec le troisième vice-président de la communauté de communes et en charge du développement économique, et avec vous-même, Madame la maire, il a préféré changer de collectivité. Lui aussi, ça fait quand même beaucoup contribuer notre secteur. Mais alors, pourquoi le troisième vice-président de la communauté de communes de la ville d'Angicienne en charge du développement économique n'a-t-il pas lui-même conduit les négociations en termes de compétences? Un second commentaire. 2 euros de plus représentent une somme d'environ 260 000 euros pour l'implantation du FM Logistique. Or, selon le troisième vice-président, avec l'amélioration de 5 euros, la ZAC d'Angis Tactipole sera excédentaire de 1 050 000 euros avec 2/3 de sa surface vendue. Peut-on vraiment parler de bradage dans ces conditions? Et surtout, faut-il mettre en péril la création de centaines d'emplois à Angis pour 260 000 euros et mettre également en lourd déficit la ZAC, puisque sans FM Logistique, le bilan est évidemment bien différent. C'est pourtant ce que vous avez décidé de faire, Madame la maire, en signant le 23 juillet un arrêté refusant le permis de construire à FM Logistique. Sans permis de construire, il n'y aura évidemment aucune acquisition de terrain, aucune implantation ni création d'emplois qui devait pourtant être la grande priorité de votre mandat. Lors de la dernière séance du Conseil communautaire, vous avez indiqué que c'était les fonctionnaires du service urbanisme qui avaient conclu au rejet. Alors, s'agit-il de ceux qui ont décidé de quitter la collectivité, exaspérés par votre attitude, ou la nouvelle recrue? De toute façon, c'est bien vous qui signez, Madame la maire, et qui engagez votre responsabilité. Vous n'avez pas jugé utile de transmettre votre arrêté à la CCBN pour permettre l'ouvrage de la ZAC Nangis Actipol, pas plus qu'aux conseillers municipaux de Nangis, mais nous avons tout de même réussi à nous le procurer. Nous avons pu examiner les motifs du rejet et nous restons interloqués devant le réel manque de justification. Nous avons également consulté, puisque vous le visez dans votre arrêté, le rapport et les conclusions des 3 commissaires enquêteurs validés par le tribunal administratif le 2 juin dernier, émettant un avis favorable suite à l'enquête publique environnementale unique sur le projet présenté par FM France SAS pour l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt logistique et du bureau, l'exploitation d'une plateforme logistique à usage d'entreposage, de conditionnement et de transport de marchandises soumises au classement Seveso Seuil haut. Ces rapports et conclusions sont particulièrement intéressants et détaillés et j'invite vraiment tous les conseillers municipaux à le lire avec beaucoup d'attention. Ils sont développés en 153 pages plus 44 d'annexes et ils portent un avis très différent de celui développé dans votre arrêté de refus. Ainsi, lorsque vous écrivez, considérant que le projet ne prévoit aucune mesure pour assurer une captation des eaux de sinistre vers les zones de stockage, et considérant que le pétitionnaire ne justifie la capacité du réseau d'alimentation en eau potable en cas d'incident, notamment en cas d'incendie, les commissaires enquêteurs écrivent par ailleurs, la commission d'enquête prend acte que l'ensemble des drainages existants ont été repris sur le pourtour de la ZAC en 2018 dans le cadre des travaux d'aménagement de la CCBN. FM Logistique propose de soumettre toutes les modalités du calcul de dimensionnement de son bassin de stockage validé par un hydrogéologue agréé. Par ailleurs, FM déclare que l'ensemble des réseaux font office de stockage complémentaire et au-delà, les bassins de la ZAC peuvent être isolés par fermeture des vannes et confinés pour stocker le surplus des eaux polluées. Il conclut également que les risques d'explosion et ou d'incendie concernant les matières susceptibles d'être entreposées devraient être maîtrisés, d'autant que FM Logistique a considérablement réduit pour certaines matières les quantités susceptibles d'être entreposées et qu'il conviendra de modifier la demande d'autorisation en conséquence. Nous ajoutons à ce sujet que l'avis du SDIS 77 notifié le 7 décembre 2019 est favorable, comme ils le font très souvent avec un certain nombre de précisions, de recommandations, mais il n'est pas favorable avec réserve, et qu'il renvoie pour les prescriptions à la procédure d'autorisation environnementale qui justifie l'enquête publique qui a été conduite. Dans vos autres griefs, vous faites également état de l'obligation de planter des arbres à une certaine hauteur et en nombre suffisant. Or, il nous semble qu'une simple demande de précision en ce sens auprès du pétitionnaire aurait certainement suffi. De façon générale, votre refus de permis de construire est la démonstration d'un grand manque de concertation entre la mairie de Nangy et les entreprises qui souhaitent s'y installer ou simplement s'agrandir. Nous avons beaucoup de témoignages de chefs d'entreprise à ce sujet. Les motifs que vous évoquez dans votre arrêté nous semblent donc sans véritable fondement. Le tribunal administratif, s'il est saisi, risque fort de considérer votre décision comme un abus de pouvoir. Nous ne comprenons pas votre acharnement à ce que l'implantation de l'effet logistique ne puisse se réaliser. Nous vous demandons d'expliciter clairement votre position et vos intentions à ce sujet.
Oui. Je vais me permettre de répondre parce qu'en fait, j'en ai eu le troisième DP, ok, je vous arrête. Donc c'est de moi dont on parle. Moi, je vais essayer de faire court, mais. Mon intérêt, moi, c'est simplement de défendre la communauté de communes, monsieur Ville. 38 euros le mètre carré. Je propose une négociation. Votre ami, monsieur Guillaume, ne décide pas de ne pas vouloir. Il est poussé par ma personne.
C'est pas mon ami, c'est le président de la communauté de communes.
Oui, mais je vais vous dire pourquoi je veux votre ami. Vous allez vite comprendre. Enfin, moi, je l'espère. Vous êtes informé de choses, c'est très bien. Donc, 38 euros le mètre carré. Vous n'êtes pas au bureau, mais vous savez que j'ai fait la demande pour qu'il y ait une négociation. Il finit, c'est très bien, il finit par céder et je signe le courrier en recommandé pour qu'on engage cette négociation, et puis appuyé par nombre de maires. Je découvre que le 22, il va négocier tout seul sans m'en informer. Effectivement, je n'étais pas disponible le 22. Il revient avec un prix, on a eu le débat c'est communautaire. Vous comprendrez que quand on prend deux tiers de prix de zone, aujourd'hui on ne parle pas de prix puisque les prix ont été fixés par la communauté de communes, mais peut-être quand même comprendre qu'en défendant le territoire, il y a des entreprises qui ont signé à 50 euros, des entreprises qui ont signé à 68 euros du mètre, quand vous n'avez pas été foutu, pardon, capable à l'époque de vendre à 38 euros. Si vous aviez vendu depuis 2018 ces terrains, il n'y aurait pas de sujet. Vous reprochez au VP de ne pas faire son boulot en gros correctement, mais en un an, en période de Covid, on a réussi à vendre deux fois plus en quantitatif d'ailleurs, en nombre de prospects, ce que vous n'avez jamais fait pendant 5 ans. Donc, moi je vous pose des questions simples. Qu'avez-vous fait à ce moment-là? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été vendu à ce prix-là, à 38 euros? Aujourd'hui, on est à 43. Oh, ok, c'est un prix, ok, à clé, ok, pas de souci. Sans estimation, en plus, des domaines à l'époque. On fait un prix, on l'a évoqué au conseil communautaire, vous avez même dit les domaines, ils ne se déplacent pas pour des terrains. Alors, question, à quoi ils servent s'ils ne se déplacent pas? Et pourtant, vous avez dit une erreur, parce que le monsieur, il est venu, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a juste dit, bah, il y a un prix qui est à ce prix-là, qui a été fait il y a quelques semaines, c'est le prix du marché. Le prix du marché, c'est le prix que l'on veut en fonction de ce que l'on offre, monsieur Bill. Vous savez, le prix du marché, c'est pas des plans où on dit tout le monde est identique, le staccatoïsme, toutes ces choses-là, ça n'existe plus. Il faut vivre avec son temps. Et bien, il est temps peut-être aujourd'hui qu'on reprenne les rênes de cette communauté de communes à un moment ou à un autre.
Non, je voulais juste revenir là sur cette estimation des domaines. C'est revenu plusieurs fois, vous voulez saisir le tribunal administratif. Moi, je suis très étonnée que vous ne le fassiez pas pour ça. La promesse de vente de FM, elle date de 2018. On la proroge, on la proroge, on la proroge, sans faire réestimer les terrains. C'est illégal, ça.
Dis-moi, là.
Et là, vous ne menacez pas de saisir le tribunal administratif ?
moi je me laisse pour dire.
Si on l'a entendu,
peut-être saisi, mais pas par peut-être. Alors, je n'ai pas compris la motivation du refus du permis de construire.
Mais vous n'êtes peut-être pas au courant. Je vais juste finir. Par contre, vous dites bien une chose, vous parlez des 270 euros, on risque de perdre de l'emploi, on risque de... Je rappelle quand même que le bilan excédentaire de cette ZAC, c'est 380 000 euros, en l'état, 38 euros. La toute petite intervention, c'est 2,5 fois plus, c'est-à-dire qu'on récupérerait en l'état 1 050 000.
Là, vous n'allez rien récupérer du tout.
Ah bah, si vous êtes devant, tant mieux. Mais vous pensiez aussi à autre chose, c'est d'ailleurs pour ça que
c'est clair.
Explique à M. Biou qu'il y a des entreprises qui veulent venir, mais il n'y a plus de foncier parce que les femmes
sont tout. M. Biou, vous avez probablement vos amis... transmettre les dossiers de type suivi de fichier éco, c'est ce que j'ai demandé au service, parce que vous dites aussi que l'agent a eu un conflit avec moi, au contraire, j'ai son téléphone personnel et on s'entend même très bien. Mais bon, c'est vrai que vous avez probablement raison, c'est tous les gens qui sont partis de la communauté de communes, c'est forcément le DVECO, la DGS est partie, le service technique est parti, une secrétaire est partie, c'est de la faute de Nangy, toujours de la faute de Nangy. Enfin, moi, ce que je vois, c'est simplement qu'aujourd'hui, nous sommes les parts des directeurs, et aujourd'hui, c'est un produit 109, monsieur Biou. Faut du 109 et vous voyez ce qui se passe, la ville va quand même beaucoup mieux, les logiciens nous félicitent. Donc je reviens sur la communauté commune, 1 050 000 d'excédent au lieu de 380 000. Vous devriez applaudir à demain. Et non, vous critiquez 260 000 pour 260 000, on va perdre de l'emploi. Vous savez combien il y a de postes à pourvoir sur la zone industrielle aujourd'hui sans parler des faits logistiques? Combien?
Excusez-moi, mais ça serait bien qu'on réponde à la question.
Non, attendez, oui, mais on va répondre. Attendez, madame Lagoutte, s'il vous plaît. On vous a laissé tout à l'heure débattre sur un truc qui était complètement à côté. Là, on parle de prix de 260 000. Je ne fais que prendre la question. Donc, combien y a-t-il d'emplois à pourvoir aujourd'hui sur la zone?
Il y a toujours eu des emplois.
Non, ma question est combien, monsieur Biou?
Non, mais aujourd'hui.
Vous ne savez pas. C'est 80 emplois. On ne trouve pas 80 emplois. Les entreprises de la zone ne trouvent pas d'employés. On n'a pas les compétences. Donc si vous voulez mettre FM Logistique, auront-ils des emplois? Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, nous sommes avec des besoins. FM Logistique est là.
Pas que des emplois pourvus par les logiciens, c'est clair. À Mormont, il y a des emplois qui sont relativement pourvus chez FM Logistique.
Une première petite remarque. Je reviens. Vous insinuez que donc l'agent en charge du développement économique à la communauté de communes est parti à cause des conflits avec son élu de rattachement. Alors, vous insinuez peut-être que si la DGS de la communauté de communes est partie, c'est également parce qu'elle était en conflit avec son président. Le dossier a été instruit. Il y a des éléments qui ne répondent pas au plan local d'urbanisme, que plan local d'urbanisme signé de votre main.
Oui, c'est pas l'avis des commissaires enquêteurs, qui est parfaitement compatible.
Les commissaires enquêteurs. Mais ils n'instruisent pas les dossiers d'urbanisme, les commissaires enquêteurs.
Il a donné un avis sur la compatibilité entre l'implantation des fameux logistiques, le plan local d'urbanisme.
On ne dit pas que l'implantation n'est pas possible, monsieur Biou. On dit que dans le détail du dossier qui a été présenté, qui a été apporté au service d'urbanisme. D'ailleurs, on regrette de ne pas avoir rencontré FM Logistique, que nous n'avons pas eu cette chance, mais ça va être bientôt corrigé, puisque nous les rencontrons la semaine prochaine. Voilà. Et dans le détail des documents d'urbanisme nécessaires à l'instruction du permis de construire, il y avait des éléments qui n'étaient pas conformes aux règles du plan local d'urbanisme. C'est tout. Maintenant, on va rencontrer FM la semaine prochaine. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails dont vous nous avez fait part. Je garde mes commentaires, nous gardons nos commentaires pour échanger avec FM. D'autant que, vous le savez, la communauté de communes a fait formuler un recours. Donc, nous ne ferons pas davantage de commentaires. Simplement pour l'information de tous, dans les zones d'activité, à la différence des terrains pour les particuliers, plus les parcelles sont grandes, plus elles sont rares, plus elles sont chères. c'était tout. On peut simplement s'étonner de ce prix, mais qui n'a rien à voir avec les questions de PLU. On peut simplement s'étonner de ce prix à 38, alors même monté à 43, on est quand même bien loin des prix auxquels ont été signées les autres parcelles récemment dans les derniers mois.
Bien, nous serons attentifs à la suite.
Mais je n'en doute pas. Alors, avant de partir, on me rappelle il faut signer les maquettes budgétaires qui sont sur les tables là-bas. Donc, ne partez pas sans signer, s'il vous plaît. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. La séance est levée. Merci.
How are you? You have to switch off the message over there. You have to switch off the